Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions Albin Michel et Versilio, Les apprentis sorciers de Alexandra Henrion-Caude. Lu par l'auteur.
À Marie. À mon mari qui me soutient indéfectiblement. À mes enfants qui ont vaillamment supporté les attaques contre moi. À mes parents qui m'ont donné le goût du travail et de la persévérance. À mes grands-parents qui m'ont appris la droiture et insufflé l'esprit de résistance. Aux victimes des apprentis sorciers, comme à ceux qui ont été suspendus. À toutes les mères du monde qui ont à cœur de protéger leurs enfants. À Adam, Meryl et Ruben.
Note de l'éditeur. L'ouvrage d'Alexandra Henrion-Caude livre au lecteur une analyse et une position critique concernant les vaccins à ARN messager destinés à protéger contre le Covid. Il s'inscrit à certains égards en opposition avec la position du Conseil scientifique qui a inspiré la politique de santé publique et vient nourrir le débat en cours sur les risques et les effets secondaires de certains vaccins, ce qui nous semble important. En tout état de cause, ce livre ne doit pas être considéré comme une incitation au refus de vaccination, mais comme une contribution à la réflexion générale sur ce sujet, qui est un point fondamental de santé publique.
Toutes les références sur lesquelles je me suis appuyée dans ce livre sont consultables sur Internet. Introduction. Docteur en génétique, je suis un chercheur franco-britannique. Pendant 25 ans, j'ai étudié comment l'environnement modifiait nos gènes, et notamment l'ARN, dans les maladies infantiles. Directrice de recherche à l'INSERM, après un post-doctorat à la Harvard Medical School, mes travaux m'ont valu d'être invitée dans le monde entier. Mais en 2015, j'ai eu à cœur de rechercher des solutions de santé simples, peu coûteuses, durables et éthiques. Je suis partie en Afrique, à Maurice, où j'ai ensuite fondé mon institut de recherche Simplissima. La presse m'a congratulée. Et puis, il y a eu le Covid. Cette crise a été pour moi une obligation à prendre mes responsabilités et à m'indigner quand je trouvais cela nécessaire. La presse m'a d'un coup dit d'extrême droite. Je ne le suis pas. Je n'ai d'ailleurs jamais adhéré ni exprimé mon soutien à un parti politique. On m'a dit intégriste et sectaire. Je ne le suis pas non plus. Je suis simplement catholique et mère de 5 enfants. Ces accusations n'avaient qu'un motif. Me discréditer et ainsi me réduire au silence. Parce que je n'ai pas cru à la fable qui faisait du pangolin ou de la chauve-souris les responsables du Covid. Parce que j'ai osé quitter ma blouse et mes fioles pour clamer il y a 3 ans ce qui aujourd'hui est de notoriété publique. Les hommes sont responsables de l'apparition de ce virus. Parce que j'ai aussi osé dire que les tests PCR ne sont pas sans risque et que c'est une folie de traiter une population saine comme si elle était malade. Voilà les raisons pour lesquelles on m'a aussi accusé d'être, entre guillemets, complotiste. Je le suis si cela signifie regarder les faits, les chiffres. Je le suis si cela signifie dénoncer des mensonges. Il ne s'agit pas ici de traiter de météo ou de mode, mais de la santé de milliards d'êtres humains. Voilà pourquoi, dans ce livre, vous apprendrez ce qu'est l'ARN, et précisément l'ARN messager, celui des vaccins anti-Covid. Êtes-vous prêt? Chapitre 1. Un vaccin à ARN messager qui tient ses engagements, mais pas tous. Dire que le monde a été pris de panique lorsque le Covid a fait son apparition est un euphémisme. Souvenons-nous que les chaînes de télévision du monde entier ne parlaient que de cela. Que les radios tournaient aussi en boucle, que les unes de la presse aux 4 coins de la planète titraient encore et encore sur le sujet. C'est simple. Le journal du dimanche écrivait le 13 juin 2020 « Plus d'un million d'articles sur l'épidémie ont été publiés dans la presse depuis le 1er mars. » Des millions d'heures d'antenne entièrement dédiées au Covid se sont écoulées, et ce, rien que sur les 3 premiers mois de la crise sanitaire. La Terre entière était épouvantée. Qu'attendait-on ? De sortir du péril, évidemment ! Le vaccin a joué ce rôle. Il a été annoncé par les gouvernements comme LA solution pour nous extirper de là. Et c'est vrai qu'il a pu redonner espoir. Les personnes âgées, les principales victimes, ont été nombreuses à se faire vacciner après des mois de terreur et d'isolement. Les personnes vulnérables aussi ont vu dans ce vaccin une promesse, et pas n'importe laquelle, celle de la survie. Cette demande avait été formulée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dès le début de la crise. Le 11 février 2020, elle rédige une feuille de route à l'intention des États. Il est demandé aux scientifiques, premièrement, d'accélérer la recherche, donc de trouver un vaccin à la vitesse de la lumière, en tout cas à une vitesse jamais atteinte. Deuxièmement, d'étudier une fois que le vaccin sera créé, les risques de maladies post-vaccinales. Troisièmement, de créer des tests pour évaluer l'efficacité de ces vaccins. Et là, force est de constater que les pays, main dans la main avec les labos, ont répondu présent. Entre l'objectif formulé et la première injection officielle dans le monde, aux États-Unis précisément, 10 mois, jour pour jour, se sont écoulés. La rapidité avec laquelle l'industrie pharmaceutique a cherché, trouvé, développé puis lancé le vaccin contre le Covid dans le monde entier a été phénoménale. Côté Moderna, on ne sait pas tourner les pouces. Je cite. Lorsque la séquence génomique du virus a été publiée en ligne par des scientifiques chinois, le 11 janvier 2020, l'équipe de Moderna, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, avait une conception de vaccin prête dans les 48 heures, a indiqué le laboratoire. Ces propos ont été relayés par le journal Forbes, le 8 mai 2020. Mais l'exploit ne s'arrête pas là. On apprend que le laboratoire envoie un échantillon de son premier vaccin candidat tout juste 42 jours après avoir trouvé sa formule. En clair, on a donc affaire à une équipe qui aura trouvé l'équation en 2 jours et l'aura développée en produit fini en 42 jours. Dans une synchronicité quasi parfaite, Ugur Sahin, le cofondateur de BioNTech, n'aura mis que quelques heures, je cite, en une seule journée, le 25 janvier 2020, pour trouver la formule de son vaccin. Cette information nous est donnée lors d'un podcast du Wall Street Journal, puis confirmée par le porte-parole de BioNTech dans les colonnes du journal Business Insider. Là encore, une rapidité et une efficacité inédites. Voilà pourquoi j'affirme que ce vaccin ARN messager a fait sortir des hommes et des femmes de leur détresse morale. Mais s'il a tenu cet engagement, cela n'a pas été le cas pour tous. On nous avait dit, Emmanuel Macron, président français, le 31 décembre 2020, l'espoir est là, dans ce vaccin. Angela Merkel, chancelière allemande, le 31 décembre 2020, depuis quelques jours, l'espoir a un visage, celui des premiers vaccinés. Joe Biden, président américain, le 9 septembre 2021. Il ne s'agit pas de liberté ou de choix personnel, mais de vous protéger ainsi que ceux autour de vous. Vladimir Poutine, président russe, le 30 juin 2021. La propagation de la pandémie ne peut être évitée que par la vaccination. Mario Draghi, Premier ministre italien le 22 juillet 2021. Appelé à ne pas se faire vacciner, c'est essentiellement appelé à mourir. On ne se fait pas vacciner, on tombe malade, on meurt. Ou on tue. On ne se fait pas vacciner, on tombe malade, on contamine, quelqu'un meurt. Tous les présidents, les chefs de gouvernement, les ministres de la Santé du monde entier nous ont donc répété à tue-tête que le vaccin était le messie. Vraiment ? Est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres ? Non. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid ? Non. Non. Ce vaccin n'a pas arrêté l'épidémie. Ainsi, le 10 janvier 2023, on recense 296 936 nouveaux cas de Covid par jour dans le monde. Non, il n'a pas non plus empêché d'attraper le Covid une fois, deux fois ou plus encore. Comme le prouve une étude publiée fin 2021 dans Science, sur 780 000 retraités de la Health Administration suivis aux États-Unis entre février et octobre 2021, la protection vaccinale est passée en moyenne de 86,9% à 43,3% sur cette période. Le directeur général de l'OMS a donc raison de déclarer dès le 23 novembre 2021 « Si vous êtes vacciné, vous risquez tout de même de contracter la maladie. » Ce sont d'ailleurs les chefs d'État eux-mêmes qui le démontrent le mieux. Andrzej Duda, en Pologne, vacciné, est positif pour la seconde fois en janvier 2022. Andrés Manuel López Obrador, au Mexique, vacciné et positif en janvier 2022. Le roi Charles d'Angleterre, vacciné et positif en février 2022. Le prince Albert II de Monaco, vacciné et positif en avril 2022. Justin Trudeau au Canada, vacciné et positif en juin 2022. Le président Lula du Brésil, vacciné et positif en juin 2022. Joe Biden aux États-Unis, vacciné et positif en juillet 2022. Une liste que j'abrège pour poursuivre sur les autres engagements ratés de ce vaccin. Non, le vaccin n'empêche pas non plus d'infecter les autres. Selon l'étude la plus récente publiée par le New England Journal of Medicine en juin 2022, qui a l'intérêt de comparer à la fois des non-vaccinés, des vaccinés sans rappel et des vaccinés avec rappel. Je cite l'article. Nous n'avons pas trouvé de grande différence dans la durée médiane de l'excrétion virale entre les participants. Autrement dit, vaccin ou pas, rappel ou pas, lorsque vous êtes porteur du virus, vous êtes possiblement contagieux. Allons plus loin. Selon une étude de Harvard, publiée dans le European Journal of Epidemiology, l'augmentation des cas de Covid n'est pas liée au taux de vaccination. C'est ce que montre une analyse faite dans 68 pays. En Israël, au Portugal et en Islande, c'est entre 60 et 75% de la population qui est entièrement vaccinée. Et pourtant, c'est étonnamment dans ces pays que l'on recense le plus de cas de Covid par million d'habitants. Il faut préciser que cette étude date du 30 septembre 2021, c'est-à-dire avant l'arrivée des nouveaux variants qui n'ont fait que renforcer cette tendance. Une étude récente menée en Afrique du Sud et publiée dans le New England Journal of Medicine en septembre 2022 nous apprend en effet que face à Omicron, deux doses de vaccin, tout comme trois doses, ne sont pas efficaces puisqu'elles n'empêchent pas l'hospitalisation, autrement dit, les formes graves. Et puis, il y a les engagements auxquels on se serait attendu, mais qui n'ont pourtant jamais été énoncés. Je pense à l'engagement de ne pas nous faire mourir, comme à celui de ne pas occasionner des effets secondaires de nature à bouleverser toute une vie. Le fameux principe de la médecine de ne pas nuire, un principe qu'on imagine partagé par tous. On a compris que le ton était tout autre dès que l'on a eu accès à ces documents de Pfizer que nous ne devions pas lire avant 75 ans et 4 mois. Nous y apprenons qu'en 3 mois d'essais cliniques, environ 14 morts par jour ont été enregistrés par Pfizer, avec exactement 1223 décès et 158 893 effets indésirables enregistrés entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021. Et effectivement, que l'on prenne les données de pharmacovigilance des différentes autorités existantes, que ce soit l'ANSM en France, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité du médicament, le VARS aux États-Unis, c'est-à-dire le système de rapport des effets secondaires des vaccins, EUDRA Vigilance pour l'Union européenne, la Yellow Card au Royaume-Uni, la DAEN, la DAEN en Australie, ainsi que Vigibase, Vigiaccess pour l'OMS, on observe chaque fois un nombre extrêmement alarmant d'événements indésirables et de décès. En prenant les 10 dernières années dans la base de données du VARS, du VAERS, la base des États-Unis, on note 4800% de décès en plus suite au vaccin anti-Covid. En prenant Vigiaccess, il a suffi d'une seule année de vaccin anti-Covid pour atteindre 10 fois plus d'effets indésirables que tous les effets secondaires obtenus contre la grippe en 50 ans. À ce jour, ce sont, je cite, plus de 11 millions de rapports d'événements indésirables et plus de 70 000 décès qui ont été rapportés. Toujours dans la base du VAERS des États-Unis, en date du 9 septembre 2022, si l'on ne regarde que les formes graves, on comptait plus de 30 000 morts, 177 000 hospitalisations, 135 200 urgences, 10 000 chocs anaphylactiques, ainsi que près de 58 000 handicaps permanents, 52 000 myocardites, 34 000 mises en danger de la vie, 44 700 réactions allergiques sévères, 16 000 crises cardiaques, près de 15 000 zona, 9 000 problèmes plaquettaires de type thrombocytopénie et 5 000 fausses couches dans lesquelles un lien avec les vaccins anti-Covid est incriminé. Sans que personne n'en parle, la base de données Vigiaccess indique que les principales victimes de ces vaccins sont majoritairement des femmes. 2/3 de femmes contre 1/3 d'hommes. Près d'une victime sur deux est européenne. Et les jeunes, entre 18 et 44 ans, qui n'étaient pourtant pas à risque du Covid, représentent 40% des victimes. Actuellement, ce sont des milliers de publications scientifiques qui viennent soutenir la description de ces maladies et décès post-vaccination. Mais ces articles alerte aussi sur l'effondrement de la réponse immunitaire chez les vaccinés et sur le danger que représentent de nouvelles injections pour eux, comme le rapporte le Lancet en juin 2022. Voici ce qu'en écrit un chercheur dans Virology Journal, Récemment, le Lancet a publié une étude sur l'efficacité des vaccins COVID-19 et le déclin de l'immunité avec le temps. L'étude a montré que la fonction immunitaire chez les personnes vaccinées 8 mois après l'administration de 2 doses de vaccin COVID-19 était inférieure à celle des personnes non vaccinées. Il poursuit « Selon les recommandations de l'Agence européenne des médicaments, des injections de rappel COVID-19 fréquentes pourraient avoir un effet négatif sur la réponse immunitaire. » Et d'ajouter « Par mesure de sécurité, les rappels ultérieurs doivent être interrompus. En conclusion, la vaccination contre le COVID-19 est un facteur de risque majeur d'infection chez les patients gravement malades, Comprenez que l'on a un souci avec la réponse immunitaire des vaccinés, un risque à multiplier les doses, mais aussi que la vaccination peut être dangereuse pour les plus vulnérables. Le 12 juillet 2022, dans le British Medical Journal, un groupe de scientifiques interpelle les deux patrons respectifs de Moderna et Pfizer afin que les données des essais cliniques, et pas uniquement les protocoles, soient enfin rendues publiques. Ils s'inquiètent notamment du fait que, selon leurs informations, les vaccins Pfizer et Moderna présentent tous deux une augmentation du risque absolu d'événements indésirables graves de 1 pour 800 vaccinés. Le 31 août 2022, une étude paraît dans la revue Vaccine, qui évalue les effets secondaires graves dus au vaccin chez les adultes. Pour cela, ils ne partent pas de leurs propres appréciations, mais se fie à la liste des effets secondaires de la Brighton Collaboration qui est affiliée à l'OMS. Il apparaît pour la première fois clairement que les personnes vaccinées dans les deux études combinées présentaient un risque accru de 16% d'effets secondaires graves par rapport au groupe placebo. Dans l'étude Moderna, 15 participants vaccinés sur 10 000 ont subi un effet secondaire grave. Dans l'étude Pfizer-BioNTech, le risque est de 10 pour 10 000. Les deux études compilées montrent donc bien une augmentation de 16% du risque d'effets secondaires graves après la vaccination. Tout cela pour dire que, je cite, « le rapport bénéfice-risque dans les données randomisées au moment de l'autorisation d'urgence était négatif, c'est-à-dire que le risque d'effets secondaires graves était plus élevé que le bénéfice démontré. » Le lien de cette étude, comme de toutes celles sur lesquelles je m'appuie dans le livre, sont disponibles sur Internet. Cette étude va faire suffisamment de bruit pour qu'en Allemagne, le 9 septembre 2022, le principal quotidien berlinois, le Berliner Zeitung, s'y intéresse et interviewe l'épidémiologiste et professeur émérite à l'université de Münster, Ulrich Keil. Il dit « Nous constatons donc une augmentation absolue du risque dû à la vaccination ARN messager COVID-19 », explique-t-il. Le 12 septembre 2022, et publier une autre étude qui révèle cette fois que le vaccin peut être plus dangereux que le virus lui-même, jusqu'à 98 fois plus dangereux. Elle est menée par des scientifiques de Harvard et de Johns Hopkins, dans la revue Social Science Research Network, et repose sur les données du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, le CDC, ainsi que les laboratoires eux-mêmes, chez de jeunes adultes entre 18 et 29 ans. Elle indique que les obligations de rappel peuvent causer les préjudices suivants. Je cite « Pour une hospitalisation COVID-19 évitée chez les jeunes adultes non infectés auparavant, nous prévoyons 18 à 98 événements indésirables graves. Il s'agit notamment des myocardites. » Il juge ces préjudices comme n'étant pas contrebalancés par un avantage important pour la santé publique et considère, je cite, « ces préjudices et restrictions de liberté disproportionnées et éthiquement injustifiables ». Regardons sur le champ l'étendue de ces effets indésirables grâce à la liste prioritaire des événements indésirables d'intérêt particulier. Cette liste provient de la très officielle Brighton Collaboration, qui est partenaire de l'OMS. Désordres hématologiques, notamment des saignements internes ou externes, thrombocytopénie, troubles de la coagulation, thrombose, thromboembolisme, AVC. Désordres immunologiques, tels que des anaphylaxies, dont les formes sont aggravées par le vaccin, les syndromes inflammatoires multisystémiques chez les enfants. Désordres pulmonaires, tels que le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Désordres cardiovasculaires aigus, dont myocardite, péricardite, arythmie, insuffisance cardiaque, infarctus. Atteinte rénale et hépatites aiguës. Désordres neurologiques, dont les encéphalomyélites aiguës disséminées, les syndromes de Guillain-Barré et Miller-Fischer, la méningite aseptique, la méningoencéphalite, les convulsions généralisées, la paralysie du nerf facial, l'anosmie, l'agueusie. Désordres dermatologiques, dont les érythèmes multiformes, l'alopécie, qu'est la chute de cheveux, les lésions de type engelure, la vascularite cutanée. Cette liste est susceptible d'être mise à jour à mesure que de nouvelles preuves apparaissent, nous indique l'article. Je pourrais aborder en détail chacune de ces maladies, mais par économie de temps et de frayeur, je ne vais insister que sur quelques-unes. En premier lieu, les troubles menstruels sont désormais un chapitre important de la vie des femmes vaccinées. Ils concernent 10% des femmes vaccinées, selon le ministère de la Santé en Israël, ou jusqu'à 65% des femmes vaccinées, selon une publication italienne dans Open Medicine, publiée en février 2022. Entre 10 et 65%. Il y a aussi un lien entre les troubles cardiaques de type myocardite et péricardite et le nombre de doses de vaccins ARN messagers reçus par les jeunes hommes entre 12 et 39 ans. Ce lien est clairement établi dans différentes cohortes, que ce soit aux États-Unis, janvier 2022, dans les pays nordiques, avril 2022, et en Israël, avril 2022. Les résultats ont été respectivement publiés dans les journaux JAMA, pour deux d'entre elles, et Nature, pour l'israélienne. Ce risque augmente non seulement en fonction du nombre de doses, mais aussi en fonction de l'âge. À titre d'exemple, deux doses de Pfizer multiplient par 133 le risque de myocardite chez les enfants de 12 à 15 ans. Autre événement indésirable grave, les troubles neurologiques. Des neuropathies à la démence, en passant par des neurodégénérescences, ces troubles sont les plus fréquemment rapportés après la vaccination dans les bases de données officielles. VigiAccess, la base de l'OMS, liste 1,7 million de troubles neurologiques. Il peut s'agir de troubles cérébrovasculaires de type AVC ou thrombose veineuse cérébrale, des problèmes cognitifs, de mémoire de type Alzheimer, des troubles de neuropathie périphérique de type paresthésie, paralysie de Bell, épilepsie et convulsions, et des neuropathies immunologiques de type syndrome de Guillain-Barré et myélite transverse. Une étude prospective sur les maladies démyélinisantes inflammatoires, qui sont des maladies d'une gravité extrême, affirme que 8,5% des patients ont développé les tout premiers symptômes dans les mois qui ont suivi leur vaccination anti-Covid. Puis une autre de mai 2021, parue dans l'Acta Neurologica Scandinavica, qui compile les effets neurologiques. Puis une autre, parue en juin 2021 dans Cureus. Puis une autre, publiée le 4 septembre 2021 dans le Journal of Neurology. Et encore une autre, parue en octobre 2021 dans la revue European Journal of Neurology. Et encore une autre, parue le 11 novembre 2022, où l'on apprend cette fois que 57% des patients de l'étude développent des troubles neurologiques juste après la vaccination, et il y en a d'autres. Je suis alors allée visiter le site d'un des fournisseurs de vaccins ARN messager pour voir s'il donnait accès à une liste d'effets secondaires. Sur le site de Pfizer, je me suis rendue sur la page censée les lister. En cliquant, on arrive sur un autre site sur lequel il faut s'inscrire, ce que j'ai fait, en attente d'un lien que j'attends toujours. Je me suis dit que mon ordinateur devait avoir un problème, j'ai donc demandé à plusieurs autres personnes de tenter cette même requête sur le site de Pfizer. Même résultat, la liste n'est pas accessible. Mais attardons-nous à un instant chez Pfizer. En naviguant sur leur site, j'ai trouvé d'autres informations intéressantes. Sur chacune de leurs pages apparaît un bandeau où est inscrit. Je cite « Les vaccins n'offrent pas une protection totale chez les personnes qui les reçoivent et ne sont pas indiqués pour traiter l'infection ou en réduire les complications. » Je résume. Avec le vaccin, on n'est pas totalement protégé, soit. Mais il ne traite pas non plus l'infection, n'en réduit pas les complications. Une seule question se pose alors, ce vaccin, il sert à quoi? Je continue ma lecture sur le site de Pfizer. Je vois la question, pourquoi devrais-je me faire vacciner? Nous interpelle le laboratoire et voici ses réponses. Premièrement, pour vous aider à vous protéger, et faire votre part pour votre collectivité. Pourtant, Je croyais comprendre, d'après le bandeau, que le vaccin ne protège pas. Deuxièmement, parce que la plupart des effets secondaires sont habituellement légers ou modérés et sont de courte durée. Rassurant, non, le « habituellement » Voilà pour les données de sûreté du vaccin vues du côté des labos. Admettons que les pays ayant vacciné leur population aient décidé de ne pas regarder cette liste. Ce ne serait pas choquant. Pourquoi ? Parce que chaque État recueille lui-même ses données de sécurité dès le début du programme de vaccination. C'est du moins ce que l'on espère. Parce que rien ne le prouve. Il est le plus souvent impossible de trouver ces informations, non seulement pour le grand public, mais aussi pour les chercheurs. Pour être tout à fait exact, un État, deux ou trois, ont réussi à mettre la main dessus. L'Écosse a pendant un temps diffusé ces informations, mais a décidé d'arrêter officiellement pour ne pas donner d'infos aux antivax. En Amérique aussi, on l'a fait. Enfin, d'une certaine manière. Le 12 septembre 2022, le docteur Rochelle Walensky, la directrice du CDC, qui est l'agence du gouvernement américain chargée de la prévention, de l'étude et du contrôle des maladies, reconnaît publiquement, dans une lettre, que son agence, le CDC, a faussement affirmé surveiller la sécurité des vaccins dès 2021, alors qu'elle n'a commencé à le faire qu'en mars 2022. Ajoutons que le Danemark ne recommande plus la vaccination pour les moins de 50 ans depuis le 13 septembre 2022. Que la Suède ne recommande plus non plus la vaccination des moins de 18 ans depuis le 1er novembre 2022, tout comme au Royaume-Uni depuis septembre 2022 pour les 12-15 ans. Serait-il en pénurie de vaccins ? Non, les commandes attestent le contraire. Sont-ils au courant que le risque est plus élevé que le bénéfice pour les enfants ? Il faut croire. Mais avant de nous pencher sur la vaccination des jeunes, et particulièrement des enfants, ce que je ne manquerai pas de faire, regardons de plus près ce qu'est l'ARN, puisque c'est sur cette molécule que l'on a tout misé pour nous sauver.